لعلنا الآن نواصل الدرس، ثم إن شاء الله في آخر الوقت نستعرض بعض الأسئلة، وسيكون إن شاء الله معنا غدا من الساعة بعد العصر، نستمر إلى بعد صلاة المغرب في الدرس، ولعلنا بعد المغرب نجعل أسئلة إلى أن وقت ننتهي من زمن الدورة هذه، وسافر غدا إن شاء الله. بعدها غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم.
إن شاء الله demain. Je suis pas très attentif parce que je suis arrivé. Je suis occupé avec les questions. En fait, je dis qu'il y en a beaucoup. Mais inshallah demain il y aura un temps pour inshallah pour les questions. Un temps que sera là de Maghreb jusqu'à la fin de la Dora en fait. Ce sera la dernière partie de la Dora inshallah qui aura lieu demain. Et il y aura un temps consacré pour les questions inshallah ta'ala pour répondre à ces questions inshallah. Donc moi je vais les garder de côté. Et inshallah on essaiera de les lire au cher inshallah dans la journée de demain inshallah. Si on ne peut pas en lire déjà dans la journée, dans cette soirée là inshallah.
وهذه الأسئلة نحافظ عليها إن شاء الله تكون معنا، وإذا في أسئلة أخرى غدا نزيد عليها، وبعد الإشاء بعد الدرس نعمل بعض الأسئلة إن شاء الله.
Donc inshallah c'est bon, ces questions seront conservées inshallah, elles seront lues demain inshallah. Déjà peut-être une partie ce soir bien là et le reste demain si jamais on peut faire avancer.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ النووي رحمه الله تعالى: باب كيفية السلام. بعد أن تكلم في شأن السلام والأدلة عليه وما يكون فيه من خير عظيم وأجر وثواب، بدأ الآن يريد يتكلم في كيف نسلم على بعضنا البعض. فقال باب كيفية السلام، ذكر كلام النووي أول، قال يستحب أن يقول مبتدئ، هذا ستأتي على أدلة، يقول يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا صيغة من أكمل الصيغ، يعني من الصيغة الكاملة. قال فيأتي بضمير الجمع: السلام عليكم، حتى لو كان واحد، وإن كان التسليم عليه واحدا أي يسمى على واحد فقط، يقول المجيب الذي يجيب يعني: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، لا بأس. لكن يبدأ يقول إيش؟ وعليكم، وعليكم السلام، وعليكم السلام المجيب ولو كان واحد لا بأس. ومرة معنا أنه يجوز يقول وعليك مثل ما فعل الملائكة. ثم أورد الأحاديث يدل على هذا، قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، يسلم على النبي، فرد عليه عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه الرسول فجلس فقال الرسول عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه أي السلام الرسول فجلس فقال ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا مرة معنا الحديث في أول آداب السلام، وقلنا أنها عشر أي عشر درجات له، بقول السلام عليكم، ثم قال السلام ورحمة الله عشرون، السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. ففيها زيادة الأجر، كلما زاد لفظة زاد الأجر. إذن لا تبخل على نفسك أن تقول السلام عليكم بس، لا، ازدد خيرا، كلمة واحدة السلام ورحمة الله هذه تزدك عشر حسنات. يعني الحسنات لو تشترى بالفلوس بالنقد باليورو وغيرها لا دفع الناس يوم حاجتهم، أما لا ما يفكروا فيها. فالآن استكثر بالحسنات، سيأتي يوم تحتاج لحسنة واحدة مشان تنجو من العذاب، ما تجد أحد يعطيك، تذهب إلى أبيك يهرب منك، تذهب إلى أمك تهرب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، لكل امرئ منهم يوم أن شأنه يغني، يقول أنا يلا يلا بنفسي. فاستكثر لنفسك الآن الأجور هذه. نعم تفضل.
بسم الله
والصلاة والسلام
على رسول الله وبعد. Le cheikh il aborde un nouveau chapitre dans Riyad al-Salihin lié au adab de la salutation, yani le chapitre sur la manière d'adresser les salutations. il mentionne le fait que l'imam al-Nawawi rahimahullah, il mentionne que après avoir mentionné les mérites du salam, le ajr, et à présent il aborde maintenant le comment. Le comment on passe le salam. Et il dit déjà que parmi les adab liés au salam, c'est que le fait qu'il est mustahab, il est recommandé, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, d'initier le salam, c'est-à-dire d'être la personne qui salue en premier, qui émet la salutation en premier lieu. Et de plus, on peut s'adresser à la personne avec le damir du pluriel, c'est-à-dire le fait de faire référence à la personne au pluriel, même si elle est seule. C'est-à-dire si je m'adresse à une personne qui est seule, je m'adresse à lui en disant assalamu alaikum, c'est légiféré. Et la personne, si je dis assalamu alaikum, elle peut me dire wa alayka salam, c'est-à-dire me répondre au singulier. Naam, ceci est légiféré comme nous l'avons vu dans le hadith, entre l'interlocution qui a eu lieu entre un groupe d'anges et Adam, alayhi salat wa salam. Et il dit, hafidhahullah, que le fait de passer le salam a des récompenses, et il a cité le hadith de Imran ibn Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, qui on a cité précédemment, le fait qu'un homme rentra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et passa à la salutation de assalamu alaykum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna par la suite après avoir répondu que en disant 10. Et شيخنا يعني في هذا الحال يعني 10 درجات 10 حسنات
حسنات
حسنات. Et le cheikh mentionna, hafidhahullah, que c'est la personne a obtenu 10 hasanat. Et le fait qu'une deuxième personne rentra, passa le salam en disant assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc avec une augmentation par rapport à la première formulation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui avoir répondu, dit 20. Puis la troisième personne rentra et arriva avec une salutation qui était plus complète que la précédente et celle qui l'avait précédée également, en disant assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir répondu à cette salutation, dit 30. Puis par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua que ceci, les chiffres visaient que, c'était, ce qui était visé, c'était les hasanat. De ce fait, le cheikh, il dit, donc plus tu augmentes en formulation, dans les formulations bien sûr légiférées, dans la chaleur d'Allah Azza wa Jal, plus tu augmentes en récompense auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc le cheikh dit, ne sois pas avare envers ta propre personne. Et augmente le bien, multiplie les hasanat, c'est quelque chose d'aisé à faire. Et le cheikh rappelle un jour terrible dans lequel les gens seront à une hasanat près. Et il a fait référence au verset dans le Coran al-Karim, lorsqu'Allah fait référence au fait que les gens ils iront vers les autres. C'est-à-dire les gens ils iront vers les membres de leur famille leur demandant de leur donner des hasanat. Ne serait-ce qu'une hasanat. Parce que ce jour-là c'est décisif. À une hasanat près, ça peut être la cause de la différence entre l'entrée au paradis ou l'entrée en enfer. Donc à ce jour-là, c'est un jour qui est sérieux, et c'est un jour dans lequel, comme Allah le mentionne dans le Coran, chacun sera préoccupé par quoi ? Sa propre affaire, sa propre situation, c'est-à-dire comment être sauvé lui, comment être sauvé du feu. Il n'en aura rien à faire de son père, de sa mère, de son frère, de ses bien-aimés, il n'en aura plus rien à faire. Tout ce qu'il calculera, ce sera comment être sauvé lui-même. Donc il dit, ne sois pas avare envers ta personne et ne te prive pas de ces rires-là.
Non, mais je... Donc, nous avons dit dans le hadith, كيفية من كيفية السلام وهي كيفية الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويكفي وأيضا يجوز أن يقول السلام عليكم يجوز لكن الأفضل تبقى يجوز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله بس والأكمل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام يعني كأن جبريل يقول يا محمد اقرأ عائشة السلام لأن عائشة ما تسمع ولا ترى والرسول يسمعه فقال يا عائشة أن جبريل عليه السلام يقرئك السلام يسلم عليك فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ردت قالت وعليه السلام ورحمة الله لأن الرسول قال يقريك السلام ما جاء بالصيغة إذن كأنه قال السلام عليكم أو سلم عليها أو هكذا وهكذا إذا جاء إنسان قال فلان يسلم عليك قل وعليه السلام ورحمة الله وبركاته لا تقول عليه السلام بس كده زد ها فقلت ولا يقول لك فلان تعرفه قال نعم يقول يسلم عليك قل وعليه السلام ورحمة الله وبركاته لا تقول خلاص قبلنا لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا الأجر والثواب فهذا يعني فيه بيان الأمر هذا بأن الإنسان وعائشة لما قالت ردت عليه قالت وعليه السلام ما قال الرسول عليك السلام وعليه لأنه ما ترى صيغة الغائب وعليه السلام ورحمة الله وبركاته على وجه الكمال طيب قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة يعني كلمة يعلم الصحابة فيها فإن فهموها وسمعوها وأدرك أنهم سمعوها جاء بالكلمة الثانية وإن كان شعر بأنهم لم يفهموا يعيدها ثاني مرة شعر أنهم لم يفهموها يعيدها ثالث مرة حتى يفهمها الجميع من باب التأكد من أنهم عرفوا هذه الكلمة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم من الدين والوحي وهم بحاجة إلى معرفته فإذا تكلم كلام يعني ينظر حتى يكون الجميع فهموا هذه فإن لم يفهموا كرر حتى يفهمون وهذا يأتي كثير خاصة بعض المسائل المهمة اللي يكون فيها مهمة رسول مرة عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد لمن جنب الفتن هذا عظيم هذه حذر من الفتن ثم عاد إن السعيد لمن جنب الفتن ثاني مرة إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاث مرات إن السعيد لمن أربع مرات كأن الصحابة ارتبوا هذا أمر عظيم ثم قال فلمن ابتلي بفتنة فصبر فواها كلام عظيم بعد ما نبههم أربع مرات ينتبهون قال قد يبتلى منكم أحد بالفتنة فإذا ابتلي وصبر يقول فواها أي عجبا لهذا الذي ابتلي بالفتنة وصبر هذا المؤمن بعض الناس إذا صبر الفتنة ينتقس على وجهه وربما السلام يرتد عن دينه لا ما ينبغي فتنة هذه تمر وإن لم تمر تموت ما عليك شيء تموت أمامك خير عظيم أنت صابر فهنا يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى نفهم منه وإذا أتى على قوم سلم عليهم عليه الصلاة والسلام يعني يقول السلام عليكم فإذا شعروا أنهم لم يفهموا أو لم يسمعوا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثاني مرة ما ردوا قالوا السلام عليكم ورحمة الله ثالث مرة إذا لم يردوا يسكت منهم إذن هنا أول مرة واجب عليه يسلموا في هذا حتى يسمعوا أو مستحب ما سمعوا ما ردوا عليه كان يقول يمكن ما سمعوا يعيدها ثاني مرة يمكن يقول ما سمعوا يعيدها ثالث مرة خلاص بعد الثالثة ما علي شيء الآن عليهم فإن ردوا كان ذلك طيب إن لم يردوا وجب عليه أن يبين لهم لماذا لا يردون وقد يأتي واحد يقول لك يسلم عليك لكن يقول إيش يقول صباح الخير يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا تقول صباح الخير تعلمه قل السلام عليكم صباح الخير هذا ما يتحيه أو اسكت منه لك وسلم عليه قل له ما سلمت عليه قل صباح الخير هذا ما يتحيه السلام من باب التعليم لكن إذا تألفته تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي لا تقول صباح الخير قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى تنال أجر وأنا أنال الأجر فهنا هذا فيها إيش باب تعليم الغير السلام كيف يسلم على أخيه وهكذا تفضل
الشيخ حفظه الله تعالى il mentionne ensuite un autre des adabs liés à la salutation lorsque on passe le salam et c'est dans le cas où on nous transmet le salam de la part de quelqu'un qui par exemple n'est pas présent ou dans le cas du hadith présent qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas il rapporte le hadith de Aïcha dans lequel il est mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'informa du fait que Jibril lui passait le salam Aïcha ne voyait pas et n'entendait pas Jibril alayhi salam. De ce fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui pouvait voir et entendre Jibril alayhi salam lui transmettait le salam à Aïcha de la part de Jibril. Et elle répondit alors wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc elle répondit le salam à qui elle lui fut transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les adabs à avoir, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous transmet, il nous dit, oh, il y a un tel, tu le connais? Il me dit, je dis oui. Il me dit, il te passe le salam, tu dis, wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu essaies de répondre de la meilleure des manières, de la formulation la plus complète, visant par cela la face d'Allah tabaraka wa ta'ala, et obtenir donc la plus grande des récompenses, bi'idhnillah, dans cet aspect-là. Puis, il ramène un autre hadith, un hadith rapporté par Anas, radiallahu ta'ala anhu, dans lequel il expliquait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait aux sahaba et leur enseignait la religion, si il voyait que ce qu'il leur expliquait était compris dès le départ, il passait à la chose suivante. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il voyait qu'il craignait de la part de ses sahaba que peut-être que ses propos ne furent pas compris comme il se doit, alors dans ce cas-là, il répétait une deuxième fois, une deuxième reprise. Et si nécessaire, à une troisième reprise, dans le but que la compréhension soit totale, globale, et que tout le monde comprenne correctement les propos tenus et les enseignements proférés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir donna un exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à ses sahaba et en leur disant, le bienheureux est celui qui est sauvé des épreuves. Naam. Et il le répéta à plusieurs reprises. Il dit, le bienheureux, c'est celui qui est sauvé des épreuves. Il dit, le bienheureux, c'est celui qui est sauvé des épreuves. Le bienheureux, c'est celui qui est sauvé des épreuves. Il le répéta 4 fois. Donc ceci affecta les sahaba. Yani quand on entend quelqu'un qui dit une chose 4 fois, ça a un impact. C'est une des méthodologies de l'enseignement prophétique. L'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses sahaba. Puis il continua. Donc le bienheureux, c'est celui qui est préservé des épreuves, puis expliqua que et lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Et alors il aura une récompense grandiose. Naam. Donc ça fait partie de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière d'enseigner à ses sahaba. Ridwanallahu alayhim ajma'in. Et le fait que le shir, il explique aussi que le fait que le bienheureux est celui qui est préservé des fitnes, car naam, tout le monde peut être amené à être éprouvé, et certaines personnes, quand elles sont éprouvées, elles ne patientent pas. Il se peut que même en réaction à cette épreuve, émanent de eux des choses qui portent atteinte à leur religion, jusqu'à peut-être certains même tomber dans la mécréance, car ils ne supportent pas l'épreuve qui leur vient, et ils réagissent de la mauvaise manière, jusqu'à quitter la religion de l'islam, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve tous. De plus, il rapporte dans la fin du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines situations, il était amené à passer le salam à 3 reprises. C'est-à-dire que si tu passes le salam et qu'on ne te répond pas, peut-être que les personnes n'ont pas entendu, peut-être que les personnes n'ont pas prêté attention, on peut être amené, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait des fois, à répéter le salam à 3 reprises afin de s'assurer que les gens entendent bien qu'on leur a passé le salam. Après, si au bout de 3 fois on leur a passé le salam, il n'y a pas de réponse, alors ça c'est leur responsabilité. Et le shir, il donne un exemple aussi de la méthodologie appropriée dans la manière d'enseigner le bien aux gens. Le fait que par exemple, si quelqu'un vient te saluer et qu'il te dit, au lieu de dire assalamu alaikum, il te dit sabah al khair, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on appelle bonjour en français. C'est-à-dire que c'est un musulman, mais il ne te salue pas de la salutation des musulmans. Tu peux lui dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barakallahu fik, tu lui fais une notification, tu lui fais remarquer que passe-moi le salam, c'est bien mieux que ce que tu viens d'utiliser comme terme, etc. Tu lui fais remarquer. Il dit, il y a une autre manière de l'éduquer aussi. Tu peux, dans certaines situations, ne pas lui répondre. Ça peut dire, il te dit assalamu alaikum et tu ne lui réponds pas. Il dit, pourquoi tu ne me réponds pas? Il dit, parce que tu ne m'as pas passé le salam. Ça peut être une méthodologie. Ou il dit, mais si tu veux y aller doucement avec lui, tu peux après utiliser le moyen de le fait de lui répondre par la salutation. Tu lui réponds en lui disant assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et tu lui fais remarquer que la personne n'a pas salué avec la salutation d'islam et qu'il est mieux de saluer de la manière dont les musulmans sont censés se saluer, etc. Ce sont des méthodologies qui peuvent être empruntées dans l'éducation et la correction et la réforme des musulmans entre eux.
قال وعن مقداد رضي الله عنه في حديث طويل قال كنا نرفع للنبي عليه الصلاة والسلام نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ولا يسمع اليقظان فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم كما كان يسلم رواه مسلم. هذا فيه كيفية من كيفيات السلام، أن الإنسان إذا دخل منزل أو مكان فيه أناس نائمون وآخرون مستيقظون فهنا يسلم السلام عليكم بس بصوت منخفض، يسمع الصاحي الذي منتبه ولا يوقظ النائم لا يزعجه، لكن لا يدع السلام. والله في ناس يا أنا ما أسلم، لا سلم بس بصوت منخفض، السلام عليكم الله وبركاته يرد عليك. فهذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم كيف يسلم في مثل هذه الحالات. نعم تفضل.
السلام عليكم. Après, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il mentionne le hadith, la narration de Al-Miqdad, radiallahu ta'ala anhu, qui rapporte que dans un hadith qui est long, et dont la, une partie juste est mentionnée dans ce bab, nous avions l'habitude de prélever la part du lait qui revenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous rendait visite la nuit, et nous saluait sans réveiller ceux qui étaient plongés dans leur sommeil. Mais il arrivait quand même à parvenir à se faire entendre par ceux qui étaient éveillés dans la maison. Et une fois, il nous rendit visite et nous salua comme à l'accoutumée. Le hadith est rapporté par Muslim. Le shir, il explique, hafidhahullah wa ra'ahu, que ceci est le adab, les manières à respecter par le musulman lorsqu'il rentre dans une maison ou il rentre dans un endroit où se trouvent des gens endormis et des gens qui sont réveillés. On passe le salam d'une voix basse, pas forte au point qu'elle, justement, elle réveille les gens qui sont endormis et ça les réveille et ça les perturbe et ça peut leur faire peur ou les surprendre. Et en même temps, c'est une voix qui est assez haute, pas tellement basse, mais au point que ceux qui sont réveillés sont capables d'entendre. C'est-à-dire, on ne dérange pas ceux qui dorment et on passe le salam à ceux qui sont réveillés. Car il n'est pas approprié qu'on rentre dans un endroit et qu'on passe devant des gens et les gens éveillés, on ne leur passe pas le salam parce qu'on dit il y a des gens qui dorment donc je ne passe pas le salam du tout. Là, on passe le salam de voix basse qui ne réveille pas les gens endormis mais qui est quand même audible par les gens qui sont réveillés.
Le hadith al-Khamis gala wa an Asma bint Yazid radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra في المسجد يوما وعصبة من النساء أي جماعة من النساء مر على جماعة من النساء في المسجد يعني كأنهم بعيد منه قليل وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم أشار بيده بالتسليم في الرواية الأخرى فسلم علينا إذن إذا كان ناس بعيد منك ربما ما يسمعون فهنا تشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى لو يسمع فهو لما يشير بيده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا السلام حتى لو بعيد منك يشوفه من بعيد يقول لك كذا السلام عليكم ورحمة الله ولو ما يسمع هنا السلام مش الإشارة بأي سلام يعني. فهو يشير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو لم يسمع وانت مار بالسيارة وعادي السلام عليكم ولو ما يسمع الإشارة هذه مع القول الأجر موجود ولو لم يسمعه هو يعرف إنه ما أشار إلا وأنت هو يقول السلام عليكم فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا من بعيد إذا الإشارة هنا تقوم مقام فهمه العبارة والذي يشير يأتي بالعبارة فهذا له أيضا الأجر وهذا في الحديث جواز أن الرجل يسلم على المرأة والمرأة تسلم على الرجل بشرط أن يأمن الفتنة لا يكون سلام نيته الفساد سلام عليك يضحك لها يريد ما يجوز الحرام أو هي ترد عليه وهي تريد لا ما يجوز لأن هذا وسيلة لغاية محرمة فإذا خلت من هذا المحرم لا بس الأصل السلامة نعم
الشيخ حفظه الله تعالى أبو الحديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à la mosquée et trouva un groupe de femmes assises qu'il salua en faisant un geste de la main. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les salua par un geste de la main. Le cheikh hafidhahullahu ra'ahu, il explique que si on vient à passer près d'un groupe de femmes, enfin passer près, pardon, passer par rapport à un groupe de femmes qui est loin et qu'on craint de ne pas être entendu par rapport à notre salutation vis-à-vis d'elle, on peut alors faire une ishara, c'est-à-dire faire un geste de la main par lequel on exprime la salutation tout en prononçant avec la bouche le salam, même si on sait qu'on ne va pas être entendu, on le prononce avec la bouche, on fait le geste en même temps et on est récompensé. Parce que le geste va être interprété comme quoi ? C'est-à-dire le geste va être interprété par les gens qui perçoivent ce geste comme étant une tentative de salutation et de transmission de salutation, même si c'est de loin. Donc nous sommes malgré tout récompensés. Parmi les fawaïd qui découlent de ce hadith, c'est le fait qu'il est permis, ceci on stipule de la permissibilité, de la licéité, du fait qu'une femme passe le salam à un homme et qu'un homme passe le salam à une femme, mais cela a une condition, la préservation de la tentation. C'est-à-dire que c'est pas que l'homme il passe le salam à la femme, qu'il commence à rigoler, etc., et qu'il cherche à obtenir plus que la simple salutation. Si on sait qu'on est préservé de la tentation, dans ce cas-là, il est permis de passer le salam entre gens du sexe opposé. Sinon, si c'est pour chercher à obtenir une fitna, à obtenir quelque chose de la femme et vice-versa, alors dans ce cas-là, c'est interdit.
قال في الحديث الأخير في الباب وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى إذن هذه الصيغة ما هي صحيحة. لو قال السلام عليكم صحيح، أو قال السلام عليك لا بس، لكن هو قدم عليك، قال عليك السلام. قال رسول لا تقل، هذه تحية الموتى. إيش تحية الموتى؟ يعني كان الناس في الجاهلية إذا مر بقبر أحد في الجاهلية فيقول عليك السلام، وغايب الآن، عليك يعني كأنه استحضر أمامه. فقال رسول هذا من فعله الجاهلية الأولى، إذا مر بأحد قال عليك السلام وفي قبره. أنا ما نقول هكذا، هذا فعل الجاهلية، لا تقول هكذا، قل عليك السلام، عليكم السلام، قدم الجار مجرور في عليك. إذن لا تقول السلام عليك كما جاء في هذه، قال عليك السلام، هذا غير صحيح. نعم
الشيخ، الصحيح هو أن نقول السلام عليك،
الصحيح نقول السلام عليكم أو السلام عليك لا بأس،
ولا
لا تقول عليك السلام، هذا أنكر رسول هذا الصيغة، قال هذا سلام، كان هذا سلام الموتى، أي سلام الأموات، كان يفعله في الجاهلية والرسول نهى عنه. نعم
Donc le dernier hadith de ce chapitre-là, par le Sahabi al-Jalil, radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il lui fut dit, alayka salam, c'est-à-dire que la personne initia la salutation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la formulation alayka salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam corrigea ce Sahabi et en lui expliquant que ceci n'était pas une salutation appropriée, car alayka salam, c'était la salutation que les gens de la Jahiliya, c'est-à-dire les gens de la période anté-islamique avant la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils passaient près des tombes, ils s'adressaient aux gens présents dans ces tombes en leur disant « Alayka salam » comme si c'était des gens qui entendaient ce qu'ils leur disaient, etc. et qui étaient présents et conscients près d'eux. Et donc cette manière de s'adresser aux gens n'est pas appropriée car c'était la manière dont les gens de la Jahiliya s'adressaient aux morts. De ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'orienta vers ce qui est de mieux, ce qui en fait, ce qui est légiféré, c'est de dire Assalam alayka ou assalam alaykum, mais on ne dit pas alayka salam ou alaykum salam. Ces formulations-là ne sont pas légiférées et font partie des habitudes des gens de la jahiliya. Non.
Tu vois quand Tu vois quand
Là, il n'y a pas que le jahiliya, là, on va
croire. Ah, c'est. قبل أن ننتقل باب آداب السلام، نسأل سؤال أول، سؤالان. نريد من يجيب. سؤال الأول، إذا مررت بجماعة فيهم مسلمون وفيهم كفرة مع بعض جالسين، كيف تسلم عليهم هؤلاء؟ ما شاء الله.
ترجم.
إيه ترجم.
في جماعة من المسلمين وواحد من الكفار فيهم.
لا لا مش واحد كفر، مجموعة مختلطين، فيهم كفر وفيهم مسلمون.
وكيف نسلم عليهم؟
كيف تسلم عليهم؟ إيش تقول يعني؟
Si on vient, c'est une question que le cheikh vous pose, et que Allah Azza wa Jalla le facilite dans ce qu'il aimait agréer. Si une personne vient rencontrer un groupe de gens, dedans il y a des musulmans, dedans il y a des non-musulmans, comment on salue ?
السلام على من تبع الهدى.
الله يبارك. يعني الأخ الفضل يقول نبدأ بالسلام يعني على المسلمين، نقول السلام عليكم، وللكفار يعني صباح الخير.
لا هذا الآن أنت تعرف إنه فيه مسلمون، خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه فيه مسلمنا، ها؟ فهنا تسلم على المسلم هذا. وهذاك إذا كان مسلم سلمت عليه، ما هو مسلم ما صار له شيء، فأنت تسلم على الظاهر الذي تعلم به، وهذا أولى بالسلام، لأنه هذا مسلم وجب عليك أن تسلم عليه. الصيغة اللي قالها الوالد لها موضع آخر. السؤال الثاني، ترجم.
Donc le cheikh Hafidhah Allah Ta'ala il dit, si tu sais que dans un groupe il y a des musulmans et il y a des non-musulmans, tu passes le salam comme c'était tous des musulmans, de telle sorte qu'en fait tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et tu vises les musulmans qui sont dans ce groupe là. Tu te contentes de ça et ceci suffit. Et quant à la salutation que notre aîné Hafidhah Allah wa ra'ahu il a mentionné, ça c'est dans un autre sujet.
السؤال الثاني إذا مرت بقوم ما تدري كفار ولا مسلمون، تجهل ما تدري والله كفار ولا مسلمون، الله أعلم، كيف تسلم عليهم هؤلاء؟
Le cher il demande, Hafidhahullah, yani, si tu passes au niveau d'un groupe, mais dedans, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est des musulmans, si c'est des non-musulmans, tu ne sais pas. Comment tu salues ?
Eh, Abou Mohamed, j'ai un question. الذي ايش اجبت عليه انه ايش تقول
السلام على من تبع الهدى
ايوه السلام على من تبع الهدى خلاص الان ان كان فيهم من اهل الاسلام الحمد لله تبع الهدى واللي مو مسلم ما له شيء سلام ما تبع الهدى طيب
donc le cheikh hafidh Allah il répond à la question que si tu passes au niveau d'un groupe que tu sois très salué et que il est constitué de gens dont tu ne sais pas s'ils sont musulmans ou non musulmans. Dans ce cas-là, ce qui a été légiféré, c'est de dire « Assalam ala man ittaba al-huda », c'est-à-dire que « Assalam » soit sur ceux qui ont suivi la guidée. Donc si ce groupe-là, c'est des musulmans, alors le salam, il est pour eux. Et s'ils ne sont pas, alors ils ne sont pas concernés par cette salutation. Non ?
مع السلامة. لا هذا مو سلام، هذا توديع يعني. أي يقول له يعني معك السلامة لا بس هذا يعني يقول يدعي له أن الله تعالى يجعل سلامة معك هذا في التوديع ما هي سلامة هذه
ليس نفس الحكم تقديم الجار
لا 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 هذه ما هي سلامة هذه لأن ذاك قال عليك السلام قال هيسلم هذه لكن هذه هو يودع يقول خلاص سافر ما ترى إلا سلامة عليك السلام هكذا يعني في إيش دعاء يعني بما ليس في تحية هذه ما في تحية بس إنما تدعو له أن ترافقه السلامة طيب هات الله خلاص؟
نعم.
ترجم الكلام.
ترجم هذا؟
أي ترجم.
يعني le frère حفظه الله il a posé la question par rapport au fait est-ce que ça rentre dans ce qui avait été interdit par rapport aux gens de la Jahiliya de dire مع السلام. يعني certaines personnes utilisent cette expression là. Est-ce que ça rentre dans ce qui a été interdit par le prophète salam de dire عليك السلام lorsqu'on initie la salutation. Cheikh il dit ça rentre pas dans ça. Ça rentre pas dans ce qui a été interdit dans les salutations parce qu'en fait quand on dit مع السلام c'est en fait c'est comme si on faisait une doua par rapport à la personne par exemple quand elle part en voyage. Et la personne elle part en voyage on dit مع السلام. Etc. Mais c'est, ça ne rentre pas dans le type de salutation qui a été interdite dans le hadith.
بعد ذلك قال الحافظ النووي باب آداب السلام. الآن يعني يذكر آداب السلام يعني الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم أو يسلم على إخوانه. قال وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام قال رواه أبو داود بإسناد جيد قال ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله قال الترمذي حديث حسن يعني إذا كان التقى المسلم بأخيه فهنا من يبدأ بالسلام إذا التقى هكذا بدون مرور هذا التقى وهذا فالذي يبدأ بالسلام هذا له أجر الأول فالذي يبدأ بالسلام له أجر الأول قال إن أولى الناس بالله يعني أولى الناس بأجر والثواب من الله تعالى من بدأهم بالسلام الذي بدأ بالسلام هذا له أجر إذا التقى مسلم وآخر أو اثنين وثلاثة كل واحد بيحاول إيش يكون هو يسرع فالسابق هنا اللي ينال الأجر الأول والآخر له أجر ما في شك لكن هذا أولى له أجر يعني في بداية الأمر أيضا في الصيغة الأخرى يلتقيان قال أيهما يعني السلام قال أولاهما يعني الأول الذي يبدأ إذن هذه كيفية إذا التقى شخص بآخر أو اثنين ثلاثة مع بعض تقول في الحديث الآخر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي يعني راكب على حصان أو على سيارة واحد يمشي هذا يركب يمشي بسرعة وهذا يمشي بريوله يقول الراكب يمشي يسلم على الماشي لأنه يمر به كأنه جالس هذه كأنه جالس وهو قائم يمشي وهذا بسرعة بالسيارة فاللي يمشي بالسيارة هذه ويعني في الطريق يسلم على الماشي برجله عرفتم؟ طيب هذا قال في أول يسلم الراكب على الدابة على سيارة على غير ذلك يسلم على الذي يمشي بقدميه هذا ينبغي هو الذي يبدأ. ثم قال والماشي الذي يمشي على القاعد، يمشي بالرجول، وهذا قاعد، هذا في منزلة إسراع وهذا في بطء، فالماشي يسلم أيضا على القاعد. قال والقليل على الكثير، إذا كان هناك جماعة، هذه جماعة قادمة كثير وهؤلاء قليل، الكثير يبدأون السلام بماذا؟ بالقليل على القليل، يبدأون على الكثير لأنهم أقل وهؤلاء أكثر، فالقليل يبدأ بالسلام لفضل الكثرة، فأنهم يبادرون ثم يردوا عليهم. أي ثم جاء في رواية أخرى قال والصغير على الكبير، إذا التقى صغير وكبير الصغير يبدأ، وإن بدأ الكبير لا بس في خير، لكن الأدب أداب الإسلام أن الصغير يبدأ احتراما ليش للكبير، هذه أداب السلام في الإسلام ينبغي الإنسان يتقيد بها، ما استطاع إلى ذلك فإن تقيد بها فهو خير، وإن خالف بعض الأمور لا بس، هذه سنن ينبغي المحافظة عليها في أجر أعظم. نعم.
السلام عليكم. للشيخ حفظه الله تعالى il aborde maintenant les adabs du salam, c'est-à-dire certains détails liés aux adabs dans la transmission du salam aux gens. Il a cité trois narrations successives. Et la première, c'est celle d'Abi Umama, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il fut, il fut demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque deux hommes se rencontrent, lequel, en fait, par rapport auquel des deux commence par le salam. Et il dit, celui qui commence par le salam, c'est le premier qui a mérité la récompense auprès d'Allah. Dans le marna du hadith, ce qui est voulu, c'est que les deux sont récompensés dans la salutation. Mais celui qui a initié le salam est le plus en droit de... de recevoir la récompense, c'est celui qui est récompensé en premier. Dans la deuxième narration, il est mentionné. J'ai rassemblé entre deux narrations, Allah Moustapha. Je vais rassembler dans les favoris des deux narrations, excusez-moi. Après ça, comme on a, parce qu'en fait, mais les hadiths ne sont pas dans la même ordre que le chef, donc j'étais perturbé, je cherchais à trouver les hadiths en même temps. Donc, si deux hommes se rencontrent, il est rapporté dans la sunna du prophète sallam que si deux hommes se rencontrent, le premier à mériter la récompense, c'est celui qui initie le salam. Le shir donc il dit que donc si deux hommes se rencontrent, c'est-à-dire ils sont tous les deux à pied, ils passent l'un près de l'autre, le musulman qui cherche le khair, il s'empresse à être celui qui passe le salam en premier. Car il sera le plus amable, c'est celui qui est le plus méritant d'être récompensé en premier, c'est celui qui reçoit la récompense en premier. Bien que le deuxième, qui répond au salam, est récompensé malgré tout. Et après il aborde certains adab plus en détail par rapport à hadith, d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui explique plusieurs adabs. Il dit que celui qui est sur une monture, c'est celui qui passe le salam à celui qui est assis. Pardon, à celui qui marche, excusez-moi. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, est sur une monture, que ce soit une voiture ou autre que ce soit, comme un cheval ou autre que cela, et qu'il rencontre un musulman qui est à pied et qui marche, et qu'il se rencontre, c'est celui qui est sur la monture qui initie le salam vis-à-vis de celui qui marche. Non. Et le deuxième cas qui est mentionné dans le hadith est celui qui marche al-mashi ala al-qa'id, c'est-à-dire que celui qui marche passe le salam à celui qui est assis, c'est-à-dire que si une personne marche et elle voit quelqu'un qui est assis, elle initie le salam. Ça fait partie du adab dans la transmission du salam aux gens. Ensuite al-qalil ala al-kathir, c'est-à-dire que si deux groupes de gens, de musulmans se rencontrent et que le groupe, il y a une différence de taille, on va dire au niveau du nombre de ce groupe-là, le plus petit nombre, le groupe contenant le plus petit nombre de personnes passe le salam et initie le salam en premier au groupe plus important. Et dans une riwaya, il est mentionné as-sarir ala al-kabir, c'est-à-dire le plus jeune passe le salam, initie le salam à son aîné. Si c'est l'aîné qui initie le salam, il n'y a pas de mal dans cela, c'est le khair, il n'y a pas de problème. Mais il est important de préserver les adabs vis-à-vis de nos aînés, car il fait partie du comportement islamique que le plus jeune respecte et honore son aîné, et ceci se manifeste par le fait d'initier le salam quand on est plus jeune que quelqu'un.
قال الحافظ النووي باب استحباب إعادة السلام يعني تكرار يعيد يعني سلم ثم يعيد ثم يعيد هذه عادة غير التي ذكرناها قبل. قال إعادة السلام على من تكرر لقاؤه عن قرب أو على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة أو نحوها، يعني مثلا واحد في ناس جلوس فدخل عليهم سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم ذهب ثم رجع بعد قليل تو ذهب شوية ورجع، لازم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهب قليل ورجع، يعني ربما يأتي لهم بشيء، كل ما يذهب يأتي وما فيخرج يدخل يدخل، كلما دخل عليه أن يسلم، استحب يسلم مرة مرتين ثلاث، دخل 10 مرات يسلم 10 مرات. هنا نلاحظ كثير من اللي يفعلون هذا من اللي تأدب وأداب الإسلام، إذا فعل مرتين دخل وسلم، دخل وسلم، يقول بس يا أخي كفي، لا ما يجوز، هذا رجل فقيه، هذا عنده أدب، يريد أجر، سلم عليه يا أخي ما يضرك أنت. ها إذن كل ما دخلت سلم، كل ما دخلت سلم. حتى جاء في الحديث الذي يليه وهو يعني أيضا معنى سائل الحديث، أنه حتى يقول إذا مر بينك وبينه شجرة، حالت بينكم شجرة كبيرة وأخوك مسلم هنا ومرت سلمت عليه من جهة هذه رد السلام، مريت هذا بينك شيء دائما سلم عليه ثاني مرة، هذا بيزعل يقول إيش بك أنت الآن سلم عليه، لا سلام أيضا. جاء في حديث، إيش الحديث؟ قال أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته الذي جاء في المسجد يصلي من بعيد وراه الرسول، فصلى صلاة بعد ما انتهى جاء إلى الرسول فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال الرسول ارجع صلي فإن لك لم تصلي، يعني صلاته فيها خلل، ارجع صلي قال، فذهب صلى قريب من الرسول ثم عاد قال السلام عليكم سلم ورد عليه السلام، يرجع صلي فإنك لم تصلي، فذهب ثالث مرة صلى وجاء السلام عليكم ارجع صلي، ثلاث مرات وهو يعيده، كل ما جاء سلم، كل ما جاء سلم. لو في هذا يعني حرج أو عدم يعني جواز لقال رسول الله يكفيك الأولى، لكن دل على أنه يجوز، فقال ارجع سلي الرابع، قال لا خلاص يا رسول الله ما أعرف علمني، فهنا فيها دليل هذه حديث المسيء صلاته مشهور، حديث مشهور، قال حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي فسلم عليه فرد عليه الرسول ثم قال ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم حتى فعل ذلك 3 مرات ويعيده، هذا فيه دلالة. دلالة الثانية قال عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينه وبينه شجرة أو جدار أو حجر غطاها ثم لقيه فليسلم عليه، حتى لو مر بينه وبين حجر أو شيء مهم منه حجبه عنه. هذا أيضا حديث يقول وهو رواه أبو داود. نعم
شيخنا حديث وهو فيما يتعلق بالحجر، يعني هذا حجر عظيم حتى لا
يعني حتى يزول، يعني مثلا زي هذا مثلا بترة حجر كبيرة حجب بينك وبينه، أنت مر ما شفته لما شفته إذا مر تسلم عليه كالشجرة.
Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il aborde un nouveau chapitre dans Riyad al-Salihin, toujours en lien avec les comportements abordés vis-à-vis de la transmission du salam. Et le chapitre aborde maintenant un autre aspect de la transmission du salam aux gens, c'est le fait de réitérer le salam dans différentes situations. Par exemple, une personne allait dans une assise et elle repart, puis elle revient. Par exemple, elle part dans une pièce et elle revient dans cette pièce-là. Quand elle rentre dans la première pièce, elle passe le salam aux gens qui y sont. Elle va dans une autre pièce, puis elle revient, soit pour amener quelque chose ou autre que ce soit, parmi les prétextes qui le poussent à cela, elle repasse le salam. Et chaque fois, Inch'Allah, elle en est récompensée. Et le fait qu'on ne doit pas blâmer la personne qui agit ainsi. Parce qu'il se peut que des fois, une personne revivifie cette sunnah. Elle part de la salle, elle revient, elle passe le salam. Elle part de la salle, elle fait quelque chose, elle revient, elle passe le salam. Il se peut qu'on lui dise, mais ça suffit la première fois, arrête. Et on dit non, ne fais pas cela, ne blâme pas la personne. Car la personne, c'est quelqu'un qui a la compréhension. Il a appris dans sa religion. Et c'est quelqu'un qui a du adab. Car il revivit une sunnah. Le fait de réitérer le salam à chaque fois qu'il se retrouve dans une pièce et qu'il revient dans la pièce dans laquelle se trouvaient les gens qu'il avait salués premièrement. De plus, le fait que. Et ça, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Et il est recommandé donc de saluer à plusieurs reprises à chaque fois qu'on a eu ce genre de séparation. Et le shir, il dit, Hafidhahullah. Il dit, même par exemple, quand on est séparé par quelque chose, c'est-à-dire que si j'ai salué mon frère, puis que quelque chose nous sépare, c'est-à-dire un objet nous sépare, quelque chose qui est assez grand pour me cacher de lui, c'est-à-dire que je ne le vois plus pendant un espace de temps et que je le vois à nouveau, je lui passe le salam à nouveau. Comme par exemple, si un gros arbre, c'est-à-dire qu'on passe près d'un gros arbre, je lui passe le salam, puis je marche de l'autre côté et je le vois à nouveau après qu'il a été caché par cet arbre d'une certaine grandeur, une certaine largeur, je lui repasse à nouveau le salam. De même sorte, si c'était avec un mur ou si c'était avec un gros rocher. Parce que j'ai demandé au chien, est-ce qu'il y a la taille du rocher? Il a dit quelque chose de large, quelque chose qui pourrait faire un mètre, etc. Quelque chose qui fait que je vois pas mon frère. Et à nouveau, quand après on est plus séparé par ce rocher-là, je lui passe à nouveau le salam. Et le chien, il donne un dalil qui a été rapporté d'après Abu Huraira par rapport au hadith qui est célèbre sous le nom du hadith de l'homme qui avait mal prié. C'est-à-dire qu'un des sahaba, il est venu dans la mosquée du prophète pour y prier. Et il accomplit alors la prière, puis se rendit vers le prophète et lui passa le salam. Le prophète lui rendit le salam, puis lui dit « Va prier car tu n'as pas prié ». C'est-à-dire « Va, retourne refaire ta prière car tu n'as pas prié ». C'est-à-dire que sa prière était tellement incorrecte qu'elle n'était pas valide. Et de ce fait, le prophète Hassan lui intima l'ordre de retourner et de réitérer sa prière à nouveau. Puis, par la suite, ce sahabi, Al-Jalil, après avoir refait sa prière une deuxième fois, revint vers le prophète Hassan et lui passa à nouveau le salam. Et le prophète Hassan lui rendit le salam. Puis il lui dit, va, retourne, car tu n'as pas prié. C'est-à-dire que les mêmes erreurs qui ont invalidé sa première prière ont eu lieu à nouveau. Et donc, il lui intima l'ordre de recommencer à une troisième reprise. Puis, à la troisième reprise, cet homme pria, puis revint vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui passa le salam à nouveau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre d'une troisième fois de nouveau et de lui intimer de prier à nouveau une troisième fois car il n'avait pas prié. C'est-à-dire que les mêmes erreurs avaient été réitérées au point de rendre invalide même sa troisième prière. Au point que ce sahabi, après la troisième fois, dit « Ya Rasulallah, je ne peux pas faire mieux que ça. Explique-moi la prière, enseigne-moi la prière afin que je la fasse correctement. » Et la suite du hadith est connue. De ce fait, il est donc légiféré de agir ainsi. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était une contradiction avec la charia du fait que quand tu vois quelqu'un, tu lui passes le salam, puis après tu pars et tu reviens, tu devais pas lui passer le salam deuxième fois qu'il aurait suffi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait fait savoir, il lui aurait dit une fois suffit, ne me repasse plus le salam, tu n'as pas besoin de le réitérer. Le fait qu'il s'est exécuté à trois reprises, repassa le salam à trois reprises, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendit le salam à trois reprises sans le blâmer, prouve que ceci fait partie de la législation et que ceci est accepté en religion de passer le salam à plusieurs reprises.
قال باب استحباب السلام اذا دخل بيته قال الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه قال وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكون بركه عليك وعلى اهل بيتك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا مره معنا في أول كتاب أو آداب باب السلام أن الإنسان إذا دخل بيته أن يسلم وفي هذا بركة يقول الرسول ويوصي أنس يقول إذا دخلت يا بني إذا دخلت بيتك سلم على نفسك وعلى أهلك هذا يقول فيها بركة ومر معنا أنه إذا سلم دخل جاء بالذكر ذكر الدخول البيت وسلم قال الشيطان ماذا لا مبيت لكم بكم لو سلم وإذا أكل قال بسم الله قال لا مبيت ولا طعام مرة معنا إذن هذه الآية والحديث دلالة على من دخل بيته يستحب له أن يسلم وفي هذا بركة له ولأهل بيته نعم
le cheikh حفظه الله تعالى il mentionne dans l'explication d'un autre chapitre de Riyad al-Salihin de l'imam Nawawi, rahimahullah, rahmatan wasi'a, toujours dans les adabs liés à la salutation, dans le chapitre, la recommandation de saluer lorsque l'on rentre dans sa maison. Et il mentionna d'abord le verset dans le Coran al-Karim, dont la traduction approximative est la suivante, « Si vous rentrez dans vos maisons, alors passez le salam qu'il soit sur vous, d'une salutation, passez-vous la salutation mutuellement, d'une salutation venant d'Allah, bénie et bonne. » Et il rapporte le hadith de Anas ibn Malik dans lequel le prophète s'adresse à lui en lui disant « Oh mon fils, lorsque tu rentres chez toi, salue les gens de ta famille, yani salue les gens qui y sont, qui s'y trouvent, afin qu'Allah réponde sur toi et sur ta famille la baraka. Et car ce sera une cause de baraka sur toi et ta famille. » Et ce hadith est authentique. Le shir, il explique que donc, le fait d'agir ainsi, de rentrer chez soi et de passer le salam aux gens de la maison lorsque l'on rentre, c'est une cause de baraka. Et le adab à procéder, c'est d'abord de faire le dhikr qui est légiféré lorsque l'on rentre chez soi, puis de passer le salam aux gens de la maison. Et il est rapporté dans la sunna que lorsque la personne rentre chez lui, fait le dhikr de l'entrée chez lui, puis il passe le salam aux gens de la maison. Le shaitan dit, il n'y a pas de gîte pour nous. C'est-à-dire, il ne peut pas y passer la nuit. Et que si jamais après, lorsque le repas est posé sur la table, la personne dit bismillah, il mentionne le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avant de manger, alors le shaitan dit, il n'y a pas de gîte ni de couvert pour nous. C'est-à-dire qu'il ne peut pas non plus se joindre au repas de cet individu. Non.
قال باب السلام على الصبيان الصبيان الصغار يعني أولاد الصغار تمر عليهم لا تسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم صغار طيب قال أنس عن أنس رضي الله عنه قال أنه مر على صبيان أنس مر على صبيان فسلم عليهم ثم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أي إذا مر على الصبيان رسول يفعل يسلم طيب قد يقول قائل هاي الصبيان ما يفهمون يقول لهم أنت لما تسلم يتعلمون ويسلم علينا فيتعلمون السلام من صغارهم وهذا من باب التعليم ولك أجر أيضا حتى لو لم يردوا عليك لأنه يتعلموا الآن فهذا فيه فضل عظيم قال باب السلام على الصبيان الصغار يعني نعم
Donc le cheikh حفظه الله تعالى il aborde un chapitre suivant toujours dans les adab du salam c'est passer le salam aux enfants. Il a rapporté de Anas, qu'il passa devant les enfants et qu'il salua. Il les salua donc, il salua les enfants en disant le prophète saluait les enfants. Et il faisait cela. Il dit que le fait de passer le salam aux enfants, donc c'est une sunna, et ça rentre aussi dans la méthodologie de l'enseignement. C'est-à-dire c'est une manière d'enseigner aux enfants les manières de l'islam, en le fait de leur passer le salam. Et donc du coup, ils s'habituent à cela et s'imprègnent de ce genre de comportement. De plus, tu as la récompense. Même si l'enfant à qui tu passes le salam ne te répond pas, tu es récompensé quand même. Parce qu'en même temps, tu es en train de lui enseigner les adabs de l'islam.
قال بعد ذلك باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط إذن هل يجوز تسلم على زوجتك على نساء محارمك على الأجنبيات ثلاث أصناف أما زوجتك فلا شك أنك تجوز زوجتك هذه إذا دخلت تسلم عليها مرت بها تسلم عليها أيضا محارمك أقربائك يعني اللي لا يحل لك أن تنكحها هذه محارمك تسلم عليها نعم هذا ما في شك هذه لكن الأجنبيات إذا مرت تسلم على أجنبية ليس محارمك فهنا قيد إذا أمنت الفتنة من سلامك سلم عليهن أما إذا كان فيها فتنة لا تسلم والسلامة لا يعدلها شيء بعض الناس قد يأخذون السلام غرض عمر شر لا لا يجوز أورد أحاديث قال أن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز عجوز هذه ها تأخذ من أصول السلق يعني نوع من الدورة الصغيرة هذا مثلها فتطرحه أي في القدر فتكركره تنجحه شعير أو غير ذلك هذا يوم الجمعة هذا من بدري تأخذ الشعير هذا والحبوب الصغيرة مسكينة فقيرة يعني. تضعه الماء تكركره بس ما عنده إلا هذا وتضعه فيأتي الصحابة على صلاة الجمعة يمرون بها الصحابة ما عندهم شيء مثل ما عندهم الخيرات الآن كانوا في زمن في فقر فيمرون يسلمون عليها ويأتون يأكلون من هذا الحب الصغير اللي يكركره بالماء هذا شيء غير ثمين لكنهم يأتون وهم متشوقين لهذا فيسلمون عليها هذا أجنبية لكن عجوز وهم شباب فلا بأس في هذا فالشاهد جواز السلام على الأجنبية قال فإذا صلينا جمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا جاء بعض رواتنا كنا نتشوق إلى هذا اللي ذكركر هذا قال وعن أم هاني فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها هذا بنت أبي طالب هذه تصير من إيش نسبتها لعمر للرسول عليه الصلاة والسلام ها ابنة عمه طيب ليست محرم له ليست محرم قال قالت أتيت النبي يوم الفتح وفتح مكة في مكة وهو يغتسل أي هناك حجاب وفاطمة تصب على الماء ويغتسل يعني بينهم حجاب فدخلت كان الحجاب هذا كان تراوجها أو شيء فقال وفاطمة تستر بثوب فسلمت وذكرت الحديث سلمت عليه فرد عليها السلام رد عليه السلام. هنا امن ايش؟ الفتنه. واضح؟ اذا هذا في جواز السلام على المراه وان كانت اجنبيه بشرط ان تامن الفتنه. نعم.
Le cheikh Hafidha Allah Ta'ala, il aborde un autre chapitre de Riyad al-Salihin, toujours dans les adab liés au salam, sur le chapitre de le fait de passer la salutation à trois catégories de femmes. La première étant l'épouse, la deuxième étant la femme qui nous est interdite d'épouser, c'est-à-dire une femme qui nous est interdite catégoriquement, comme nos sœurs, etc., les femmes de nos familles, qu'on ne pourrait jamais épouser, et troisièmement, les femmes qui nous sont étrangères, c'est-à-dire des femmes qu'on pourrait être amenées à épouser. Donc, le cheikh, il dit déjà pour la première catégorie, bien sûr, la femme, c'est ton épouse, il est permis de lui passer le salam. Et la deuxième catégorie, c'est les femmes qui te sont interdites aux zawaj. Alors, dans ce cas-là, tu peux leur passer le salam également. Et maintenant, reste une troisième catégorie sur laquelle il y a un détail, c'est les femmes qui te sont étrangères. Il t'est alors permis de leur passer le salam à une condition, une règle, une restriction vis-à-vis de cette interaction avec elles, c'est le fait que tu sois préservé de la tentation. Car le fait d'être dans un état de préservation, être préservé des torts, rien n'équivaut cela. C'est-à-dire que c'est très important que le musulman fasse en sorte d'être préservé de toute forme de mal. Et il ramène le premier hadith de ce chapitre, rapporté par Sahl ibn Sa'd, radiallahu ta'ala anhu, qui mentionne une qissa, une histoire par rapport au fait que Yom al-Jumu'ah, il y avait une vieille dame. Dans une certaine version du hadith, il est mentionné une vieille dame, puisque dans une version du hadith, il dit il y avait une femme. Et dans une version, il est dit une vieille femme. Et cette vieille femme cuisinait quelque chose. Et les sahaba étaient pauvres, ils n'étaient pas des gens qui étaient dans l'aisance vis-à-vis de ces choses-là. Et quand ils passaient pour se rendre, ils passaient le Jumu'ah, ils lui passaient le salam. Et quand ils revenaient de Jumu'ah, ils mangeaient de ce qu'elle avait cuisiné, qu'Allah la récompense en bien. Et de ce fait, ils lui passaient le salam, bien que c'était une femme qui leur était étrangère. Ce qui prouve la licéité, mais parce qu'il c'était quoi ? Ça respectait la condition que j'ai citée précédemment, Hafidhakumullah Jami'an. Qu'il y ait une préservation de la tentation. Le fait qu'il n'y ait pas une tentation, il n'y ait pas une shahwa qui soit liée à cela. Et il ramène le hadith, le deuxième hadith du Bab, le hadith de Hani, radiallahu ta'ala anha, qui rapporte que Yom al-Fatr, le jour de la conquête de Mecca, elle alla visiter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de se doucher, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était caché par un vêtement. C'est-à-dire que sa fille Fatima, radiallahu ta'ala anha, elle couvrait son père, elle le cachait. En utilisant un vêtement, et le prophète sallam se lavait. Hani, qui n'était pas une femme, ce n'était pas l'épouse du prophète sallam, ce n'était pas une femme qui lui était interdite au mariage, donc c'était une femme qui l'aurait pu épouser, radiallahu ta'ala anha, elle lui passa le salam alors qu'il était caché par un vêtement en train de se doucher. Et elle lui passa le salam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui rendit le salam, ce qui prouve qu'une femme peut passer le salam à un homme, et un homme peut lui rendre le salam, si la condition respectée, c'est le fait d'être préservé de toute forme de fitna. Non.
قال باب تحريم ابتداءنا الكافر بالسلام. يعني هذا الباب يقول تحريم ما يجوز حرام أن تبتدئ الكافر بالسلام. هذا مرة معنا في حديث. قال وكيفية الرد عليهم إذا سلموا كيف نرد عليهم وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وفيهم كفار. هذا أيضا مرت معنا كلها ثلاث أمور في الحديث ثلاث. الحديث الأول قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأهم. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. بمعنى إذا أنت ماشي في الطريق لقيت كافر لا تبدأ بالسلام. طيب إذا سلم تقول عليكم، مثل ما بينا في ثم قال وضيقوا عليهم في الطريق. إيش معنى ضيقوا؟ يعني بمعنى لا توسعوا لهم، وليس معنى أنك تضيق عليه يعني تدفه كذا، لا، أنت لا ماشي معك أخوك تمشي أنت وياه مع بعض، لقيت كافر لا تحرك، خليه يمر بهنا من هنا، ها؟ لكن لا تضيق تسوي كذا، لا ما يجوز، هذا طريق له. إنما معنى إيش؟ لا توسع له، لأن توسع له هذا دليل احترام. لا شك ان هذا الكافر ينبغي تحترمه، ما في شك، لا تضره، ها، هذا من باب هذا يعني، ولا يجوز انك تحترمه من باب انه يعني انسان، وثانيا انت تريد ان تتالفه الى الاسلام، وكيف اذا كنت في بلاده؟ هذا اشد، ها، اذا قمت تدفدفون في الطريق بيسفروكم ثاني يوم الى بلادكم. فهنا لابد من فقه مثل حديث تفضل حديث مثلا حديث حديث ثاني قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب سلم عليكم فقولوا وعليكم هذا مرة معنا حديث الآخر قال وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة أوثان ويهود فسلم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه سلم عليهم لأن فيهم من المسلمين في السلام يقصد بهؤلاء نعم
Donc nous abordons un nouveau chapitre dans Riyad al-Salihin, toujours dans le chapitre, dans la section liée au adab, liée aux salutations. Et on aborde différents ahkam dans trois situations différentes. Par rapport à l'interdiction de, pour le musulman de, d'initier la salutation, de passer le salam en premier à un non-musulman. Et la deuxième manière, la manière de lui rendre le salut. Et la recommandation de saluer une assemblée dans laquelle se trouvent des musulmans et des non-musulmans. Ils sont mélangés. Le premier hadith qui est mentionné dans ce bab, c'est le hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'initier la salutation, de passer le salam en premier aux juifs et aux chrétiens, yani aux gens du livre. Et que si on les rencontre dans un chemin, yani ne serrez-les. Dans le sens, qu'est-ce qui est voulu? Ça ne veut pas dire que tu le coinces contre un mur et tu le serres et tu l'oppresses et tu joues des coudes contre lui. Là, c'est juste que tu ne t'écartes pas pour lui. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut passer et que tu lui laisses place, tu lui laisses la plus grande place dans le chemin, c'est une forme de démonstration de respect. Il dit ça là-bas, ça, on ne doit pas le pratiquer de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'on oppresse les non-musulmans. Ça ne veut pas dire qu'on les agresse, qu'on les oppresse, etc. On ne leur cause pas de tort, c'est interdit. Il est interdit de causer du tort aux non-musulmans. Cela dit, on ne va pas aller dans l'excès et le fait de s'écarter, de leur laisser la voie et de leur montrer un ihtiram qui est inapproprié. Cependant, ces ahadiths-là, à la base, concernent les pays musulmans. À la base, sont liés aux pays musulmans. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, Hafidhahullah, il dit, si tu es dans les pays des koufars, tu vis dans son pays à lui, alors dans ce cas-là, il faut avoir du fiqh dans la manière d'appliquer les ahadiths, parce que dans certaines situations, ça peut avoir des répercussions d'agir en application de certains ahadiths envers certains koufars. Donc il faut avoir du fiqh dans cela. Et celui qui veut avoir des précisions dans ce bab-là, alors qu'il écrive une question pour que le cheikh y réponde plus tard,
Inch'Allah.
Le cheikh Hafidhahullah wa Ra'a mentionne le deuxième hadith selon Anas radiallahu anhu, dans lequel il mentionne que si les gens du livre, les Yahoud ou Nasara, les Juifs ou les Chrétiens, viennent à nous passer le salam, on leur dit wa alaykum. Donc ceci nous a enseigné dans la manière de répondre. On a vu là premièrement comment se comporter dans le fait que c'était interdit d'initier le salam, mais si ils initient le salam, on leur dit wa alaykum, et vous avez déjà vu le fiqh mentionné par le cheikh Hafidhahullah wa Ta'ala précédemment. Maintenant, il reste un dernier adab qu'on a déjà abordé précédemment, on le répète. C'est le hadith de Usama, radiallahu anhu, lorsqu'il mentionne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il passa près d'une assemblée qui était constituée de musulmans, d'idolâtres, c'est-à-dire d'adorateurs des idoles, et de yahoud, de juifs. Et il salua, c'est-à-dire il salua le groupe. Donc ça prouve que ceci nous est permis de saluer un groupe dans lequel il y a des musulmans et des non-musulmans mélangés.
قال في الباب الأخير وهو آخر درسنا هذه الليلة قال باب استحباب السلام إذا قام للمجلس وفارق جلساءه أو جليسه هذا معناه أنه الإنسان إذا جلس في مجلس إذا دخل يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلس إذا أراد يخرج أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمثل ما دخل يسلم وهو خارج يسلم الآن ما شاء الله يدخل علينا الشباب هنا إذا دخلوا يسلمون ما أسمع شيء هناك يسمعون إذا هم خارجين ما يسلمون لا تركوا السنة هذه لازم تخارج إذا تسلم ما شيء إذا يقول السلام يفكي اللي عندك السلام عليكم أسكر تخارج هذه السنة دليل في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى هذا باب مستحب هذا ليس واجب يعني إذا ما فعله ما عليه إثم لكن المستحب أي سنة في أجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس يعني دخل فليسلم فإذا أراد أن يقوم يعني ينصرف فليسلم أيضا فليست الأولى عند دخوله ليست الأولى بأحق من الآخرة إذا الآخرة أيضا مثل الأولى هذاك أيضا مستحبة وهذا أيضا مستحبة فلا تترك الآخرة كما أنك لم تترك الأولى فافعل الأولى وافعل الآخرة ومن ذلك لك أجر عظيم قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن نعم
Le cheikh aborde le dernier chapitre abordé dans notre assise aujourd'hui. Jazakallahu khairan. Le fait qu'il aborde la recommandation de passer le salam lorsqu'on arrive dans une assise et lorsqu'on la quitte. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle arrive dans une assise, il est recommandé, et non pas obligatoire, donc ce n'est pas un péché de le délaisser, mais c'est un délaissement de la sunna, le fait que lorsque la personne arrive dans une assise, de passer le salam à l'assise, aux gens de l'assise, à l'assistance. Et que lorsqu'il se lève de l'assise pour la quitter, qu'il passe également le salam. Ceci est également recommandé. Les deux mérites de qu'on passe le salam, l'arrivée et le départ de l'assise. Et le cheikh dit que c'est mustahab et ce n'est pas wajib, et il ramène le dalil rapporté selon Abu Huraira qui rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna que lorsque l'un d'entre vous arrive dans une assemblée, qu'il salue l'assistance et s'il désire la quitter, qu'il la salue, car la première salutation n'est pas aussi impérative que la dernière. Et ça, c'est une dernière faïda, c'est-à-dire que la première salutation n'est pas aussi impérative que la dernière, c'est-à-dire que la deuxième est un peu plus importante que la toute première qui a eu lieu lorsque la personne est arrivée dans l'assise.
نقف عند باب الاستئذان وآدابه غدا إن شاء الله نكمل والآن نستعرض بعض الأسئلة باقي معنا نص ساعة وأنا أفضل أن تكون الأسئلة من القاعدين اللي عنده سؤال يرفع يده نجاوب هذه أنفع والأسئلة هذه نجاوب إن شاء الله بكرة عليها هذاك الأخ يسأل من قبيل يرفع يده جزاك الله خير سؤال طيب هذا تترجم السؤال
نعم
طيب
حفظكم الله يعني le frère حفظه الله ورعاه يعني il mentionne le fait qu'il y a beaucoup de frères qui parlent de hijra mais ils ne la font pas donc qu'est-ce que vous يعني demande qu'est-ce que le cheikh pourrait commenter sur cela
هذا يعني الاخ يقول يعني كثير من الاخوه يتكلمون عن الهجره ولكن ما نرى احد يهاجر هذا لها مثل عند العرب واحد يعني جالس منتظر الأكل وهذا يجعجع الأكل يعني يعمله يعني وطال المدى يجعجع فقال له أسمع جعجعة ولا أرى طحناء تجعجع طول النهار وما شيء أكل جاء هذا المثل ينطبق على كلام الأخ أنا فعلا كلام الأخ هذا صحيح سمعه كثير كل ما جيت محل هجرة 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 أنا أعمل مشان الهجرة أنا أعمل مشان الهجرة أنا ورأيت بعض الإخوة الآن أنا ثالث مرة ورابع مرة أجي لكم سألته هاجرت قال نعم هاجرت قلت له وش جلسك هنا الآن وش جابك هنا قال عندي تجارة هنا كل بعد شهر أجي أسوي حسابات قلت له هذا ما هجرة هذه ما هجرة الهجرة تهاجر الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة للإسلام هاي بلاد كفر إلى الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تعودوا إلى مكة حرام عليكم أن تعودوا من عاد إليها بطلت هجرته والهجرة أشارها عظيم أجر عظيم فلما عادوا للحج أو يأتون لعمرة حرم عليهم الجلوس أكثر من 3 أيام إذا قضوا مناسكهم لما قضوا مناسكهم في الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنذرهم خلاص الآن كمل الحج من جلس أكثر من 3 أيام هجرته باطلة انظر إلى عظم الشأن فأنت يا أخي انظر لحالك أول الهجرة نقول الأصل هناك أن تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة متى تكون واجبة متى تكون مستحبة تكون واجبة إذا كان ما تستطيع تقيم شعائر دينك في بلاد الكفر شعائر دينك كاملة أنت وزوجتك وأولادك إذا كان ما تستطيع تقام شعائر هذا الدين وفي هناك تعطيل هذا الدين وجب عليك وجوبا أن تخرج إذا لم تخرج فأنت آثم وفي هذا وعيد من الذين توفاهم الملائكة هذا توفاهم لكم إيش ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا تهاجروا يعني إيش قال أولئك إيش مأواهم جهنم وساءت مصيرا هكذا الآية ولا إذن هذا أنت ما تستطيع قيم دينك في أمور معطلة من دينك كل ما تريد قالك ممنوع يهددونك بأولادك يهددونك بزوجتك وجب عليك أن تهاجر إذا لم تهاجر عليك الوعيد هذا خلوا بالكم هذه هي واجبة فلا ينبغي الجلوس بعدها. طيب هناك غير مستحبة، أي ما تقيم شعائر دينك كاملة، ما هناك عليك أي شيء. فأنت هنا يستحب لك أن تهاجر، يستحب لك أن تهاجر. إذا لم تهاجر لا تأثم، ولكن الأفضل أنك تهاجر. فينبغي إذا كنت تحدث نفسك بالهجرة فانظر أولا هل الهجرة واجبة أم مستحبة. إذا كانت واجبة بادر، لا تسوف، ما تدري متى تموت، وربما تموت وتترك أمانة. الرسول يقول عسى من استرعى الله رعية يموت وهو يموت وهو غاش لا أي يتركها وهي ما قادر تؤدي دينها، يموت وهو غاش لا إيش ما يرح الجنة، يقول ما يرح الجنة، هذا شأن عظيم. أما إن كانت مستحبة فأنت على الخيار، فأنت على الخيار. طيب هذا الأمر. فينبغي إخواني لا تحدثوا عن الهجرة كثير، من ربما يقول بعضهم مظهر يقول والله أنا مهاجر سأهاجر سأهاجر، لا لا اترك هذا الموضوع. إذا قلت سأهاجر أعمل، وإذا عملت وفقت لهذا، وإذا نويت وفقك الله تعالى. لكن ما هي أماني تتأمن والله أنا أتمنى وإذا أتمنى، هذا يسموه أماني إيش؟ النوكة، العجزة، الذي ما عندهم شيء فيتمنى يتمنى يتمنى وما في فائدة. كيف؟ يعني اللي يتمنى هذا بدون ما يعمل هذا ما ينجح، ما يصل إلى مبتغاه. يعني رجل كان عنده قربة، فنطول عليك شوية، قال هو قزاز فيها عسل، تعرف العسل، وجاء أخذ العسل وطرحه أمامه وهو جالس كذا وانبطح، وقال أنا سأبيع العسل هذا ثم أشتري عسل ثاني وأبيعه ثم أشتري عسل ثاني وأبيعه، إذا صار عندي عسل كثير أشتري ناقة وأحمل على البضائع وأنقل وأنقل، إذا اشتريت ناقة صار عند بعت يعني كثير بالبضائع أشتري ناقة ثانية وثالثة ورابعة، يصير عندي نوق كثير. وإذا ناقة آدتني أرفسها هكذا برجلي وأرفس العسل وطير العسل. إيش هو هذا؟ هذا يحلم، هذا تمنى سأفعل سأفعل، وضع لمني كلها راح. فلعلكم في هذه تأخذ منها عبرة من هذا الكلام. لما تترجم في بعض المواضع اللي قلتها لا تترجمها، خلي بالك ايه مشان نعود البلاد هذه، ها خليك حليم ذكي الترجمة، عرفتوا؟ والحليم تكفي الإشارة، شير إلهم بشارات يعني، ولعله قد يكون بيننا الله المستعان مخبر، أسأل الله أن يهدي ويسر. خليك لبك.
إيه.
أتي بجملة. أيوة أعطي عمومات.
طيب يعني le frère حفظه الله تعالى يعني il mentionne les gens qui parlent de certains frères qui parlent beaucoup de hijra mais on voit pas grand chose en matière d'application, c'est-à-dire que beaucoup parlent de hijra mais ne l'accomplissent pas. Le cheikh حفظه الله تعالى il explique que la hijra il faut regarder deux choses. La première, par la personne doit se poser la question, est-ce que c'est obligatoire pour moi ou non? La hijra est soit wajiba, obligatoire, ou soit mustahabba, recommandé. Qu'il regarde, quelle est sa situation dans le pays dans lequel il vit. S'il réside dans un pays dans lequel il peut pratiquer ouvertement et pleinement et complètement sa religion sans aucune restriction, alors pour lui, c'est mustahab de quitter ce pays pour aller vers les pays musulmans, et c'est recommandé donc pour lui, il n'est pas pécheur s'il y reste. Mais si jamais il venait à subir des formes d'oppression qui l'empêcheraient de pratiquer complètement et sereinement sa religion, donc dans ce cas-là, il lui est obligatoire alors de partir. Car on voit beaucoup de gens qui pensent avoir fait une hijra, mais c'est une hijra qui n'en est pas une en vérité. Elle n'a de hijra que le nom. Comme certaines personnes qui, ils ont immigré, mais ils sont la plupart du temps en terre des non-musulmans. Il te dit, j'ai immigré. Il te dit, pourquoi tu es là? Il dit, non, mais je fais de la tijara, je fais du commerce. Et ça, c'est pas approprié d'utiliser des propos comme ça. Donc la personne, elle doit pas retarder et qu'elle comprenne que c'est quelque chose de grave auprès d'Allah Azzawajal de résider dans un pays où tu ne peux pas pratiquer ta religion correctement et que tu y restes alors que tu n'as pas d'excuses et que tu es capable de partir. Si tu sais que la hijra est obligatoire, fais les causes, prépare-toi et émigre.
هاي العسل ميت
وخلص وخلص المقصود يعني مبلغ
الحمد لله جزاك الله. طيب في سؤال ثاني؟ في حد عنده سؤال آخر؟
نوت كيسيون؟ نعم. نيري با بير سي بون.
هاي الاخ برضه سؤال ثاني.
نية الشيخ يعني في الحقيقه يعني الانسان لا يتكلم كثير ولا يفعل، لا هذه النية فقط.
اللي يتكلم كثير ولا يفعل
كلام في الفارغ،
ايوه الذي يتكلم كثير ولا يفعل هذه خصلة، ما هي خصلة من خصال أهل الإسلام. لازم الإنسان يتكلم يفعل، لكن إذا كان مثلا يأخذ رأي هذا يتكلم يأخذ رأي هذا من باب أخذ الرأي لا بس ما فيها شيء. السؤال اللي بعده، في سؤال آخر ولا شيء من قبلكم ولا نسأل؟ تفضل.
بخصوص موضوع الهجرة، يعني هنالك أشخاص هم أو عوائلهم لديهم أقارب، مثلا نجد الزوجة أو أهل زوجها مقيمين هنا، وهي إن يعني هاجرت أو هاجر زوجها إلى بلد مسلم، فعليه أو عليها أن تتبعه هناك في حال العودة هنا لزيارة الأهل، بما أنهم لا يستطيعون زيارتها. يعني هل عليهم شيء في العودة إلى هنا للزيارة؟
لا، ما زيارة. اللي يبغى يزورك أن هو يأتي، لأنك أنت محرم عليك الرجوع، وهذا ما هي حاجة ضرورية. الرسول أذن لهم بالعمرة لأن ما في عمرة إلا في مكة، ولا في حج إلا في مكة. فمات من كان عزيز عندك أمك، قل لها يا أمي أنا بهاجر ولا يجوز لي أن أعود، يلا معي. قالت لا يا ابني الله معك، خلاص من بعيد بالتليفون ولا بالسكايب، بس من بعيد ما تجي.
اي فيما يخص امر العلاج،
حتى العلاج ايش فيك الله بالرقية وايش علاج؟ لا الدنيا فيها علاج كلها، يعني البلاد اللي انت تروحها ما في علاج؟ الحمد لله المغرب الجزائر مصر كلها بالاسلام فيها علاج، واذا ما وجدت الحمد لله اصبر، لان العلاج مستحب ليس على الراجح، لا مستحب ليس واجب، فأنت الحمد لله ما تموت إن شاء الله، وإذا مت لك الأجر لأنك تحافظ على هجرتك. ما في منفذ، ما في منفذ. هيا
أحسن الله إليكم. يعني حكمتم يعني أتيت بالحكم أنه مستحب على الأراجع يعني طلب العلاج للمرض؟
أي مستحب، لا لأي واحد مريض العلاج مستحب ليس واجب، إذا مت عادي ما عليه. هذا موضوع آخر، يعني هذا موضوع ثاني يعني، لكن هو يسأل يقول إذا يرجع للعلاج نقول ما يجوز لك.
نعم نعم. وفي فيما يتعلق بزيارة الترجمة إن شاء الله؟
الترجمة.
أحسن الله. يعني le frère il a posé une excellente question. En résumé, يعني par rapport au fait qu'un couple fasse l'immigration et dont des membres de leur famille respective résident en terre non musulmane. Et donc, est-ce qu'ils peuvent aller donc les visiter, c'est-à-dire retourner dans les terres qu'ils ont, dans lesquelles ils ont émigré, dans le but de visiter leur famille? Le cheikh a dit que ce n'est pas une cause légitime pour aller retourner dans la terre qu'ils ont quittée. Ils ont fait la hijra, ils ne reviennent pas. Et s'ils veulent maintenir le contact, soit ils disent à leur famille de venir vers eux, avec eux, soit dans ce cas-là, si leur famille préfère rester en terre non musulmane, dans lesquelles on ne peut pas pratiquer sa religion correctement, alors ceux qui ont émigré voulant préserver leur religion, ils gardent le contact par le téléphone ou par Skype, yani la vidéo en live. Et le frère a posé la question, et qu'en est-il du retour en terre de non-musulmans dans laquelle on ne peut pas pratiquer sa religion, si c'est pour se faire soigner? Le cheikh dit la parole authentique, c'est-à-dire il fait une sous-entendue, il oriente vers le fait qu'il y a une divergence entre les ulémas dans ça, le fait de chercher à se soigner par rapport à ça, c'est mustahab. Et le fait qu'ils disent que ce genre de remèdes en général maintenant ils sont dans le monde entier, yani c'est pas obligé d'aller dans les terres des non-musulmans pour se faire soigner, tu peux aller au Maroc, en Algérie, etc. Il y a plein de pays où on trouve des moyens de se faire soigner bi-idhnillahi azza wa jalla.
دليل استحباب العلاج حديث صحيحين، حديث ابن عباس الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، يعني الذي يسترقي والذي يكتوي لا يكون من 70,000. الرسول قال لا يكتوون، يعني يتركون الكي ويتركون الرقية من باب أنه يريدون يكون من 70,000. إذا يتركون، لو أنها واجبة ما يتركونها، يعني إذا لو يتركها يأتم لما تركها، لكن هنا يتركها بقية أن يكون مع المتوكلين على الله تعالى فيدخل الجنة مع 70,000. هذا فيه دليل الاستحباب للعلاج أنه ليس واجب، وحديث كثير في الباب هذا. نعم هات الله.
دونك le cheikh Hafidhahullah, il poursuit par rapport à ce qu'il a mentionné sur le fait que c'est recommandé simplement de chercher à se soigner lorsqu'on est atteint par une maladie. Il ramène le hadith qu'on appelle le hadith des 70 000 promis au paradis, qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ce hadith mentionne que ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui font partie des 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment, ce sont les gens qui ont trois caractéristiques. Parmi elles, le fait qu'ils ne demandent pas la roquia et qu'ils ne pratiquent pas ce qu'on appelle la cautérisation. La cautérisation étant le fait d'utiliser un morceau de fer ou un morceau de métal, de le chauffer à haute température lorsqu'on est atteint par une plaie, par une coupure ou une entaille, et d'appliquer ce morceau de fer à chauffer à haute température dans le but de faire cicatriser la peau plus rapidement. Ça tue les bactéries, ça tue les microbes, et ça fait que la peau cicatrise plus vite. C'est quelque chose, c'est un procédé par brûlure. Et le cher, il dit donc, parmi les trois caractéristiques qu'ils avaient, c'était ça, que les 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment, ne demandaient pas la roca, ne pratiquaient pas la cautérisation et plaçaient leur confiance en leur Seigneur. Donc ça, c'est un dalil que si jamais le fait de délaisser, le fait d'utiliser la roca, de demander la roca, ou le fait de délaisser la cautérisation, c'était interdit de délaisser ces choses-là quand c'est en termes de remède, alors dans ce cas-là, ce ne serait pas quelque chose de loué dans la charia. Donc le cher, il dit, donc c'est mustahab de chercher à se soigner, et celui qui veut par exemple faire partie des 70 000, il place sa confiance en son Seigneur par rapport à ça. Et il dit donc c'est pour ça l'alcool au sahih, c'est que c'est mustahab.
Nous dit masala huna wa idha taraka al-ilaj ma'a al-qudra taraka alayhi ma'a al-qudra biniyat al-intihar hada ma yajuz haram ma yajuz al-ilaj mumkin yata'alaj qal la ana ma ta'alaj mustahab lakin yanwi tarka al-ilaj mishan yantahir mishan yamut. هذا ما يجوز لأن النية هنا نية انتحار هذا محرم المنتحر هذا على عقاب شديد.
Le cheikh rajoute une ziyada. Il dit donc celui qui est malade et qui patiente place sa confiance en son Seigneur et espère qu'Allah Azzawajal lui accorde la guérison sans qu'il n'ait eu à rechercher le remède et s'en remet à lui. Ça c'est mustahab selon le cheikh hafidhahullah ta'ala, selon l'avis qu'il a choisi hafidhahullah. Mais il dit par contre celui qui est atteint d'une maladie et qui délaisse volontairement l'usage de remède dans le but qu'il a, il veut en mourir, c'est-à-dire que cette maladie qui l'afflige, il est volontairement, il délaisse le fait de chercher un remède alors qu'il sait que ça va le tuer, il cherche à mourir par cette cause-là, il dit ça c'est haram. C'est illicite, il n'a pas le droit d'agir ainsi.
طيب رجع الأسئلة اللي عندك. باقي حوالي ربع ساعة.
طيب بلال.
في سؤال؟
نعم.
تفضل بلال.
يعني je voulais savoir par rapport au hajj et la hijra. Si par exemple, يعني t'es encore chez tes parents, et يعني t'as les moyens de faire le hajj, mais يعني ça pourrait te ralentir, يعني dans le fait de pouvoir faire la hijra. C'est quoi la priorité dans ce cas-là?
Donc si tu as assez de quoi faire le hajj, mais voilà. Si après tu dépenses pour le hajj et que tu le fais, t'as pas la capacité de faire la hijra par la suite.
Voilà, ou si ça te ralentit, ça te retarde ta hijra, ou yani, ça t'empêche dans l'immédiat de pouvoir la faire.
طيب الأخ يسأل يعني إذا يعني أعيش في فرنسا مثلا وأملك يعني ما يكفيني للحج وإذا فعلت الحج ودفعت لأجله لا يكفيني ما يبقى معي لأجل أن نهاجر ما هو المتقدم بين هذين؟
الحج لا شك أنه ركن من أركان الإسلام لكن مقيد بإيش؟ بالاستطاعة. طيب الحج مقيد بالاستطاعة والهجرة الواجبة هل مقيد بالاستطاعة؟ واجبة إثم عليها شديد تعذب عليه إذا قدم الهجرة لأن الحج الآن ما أنت مستطيع إذا كنت تستطيع تفعل هذا وهذا نقول أمر آخر ونقول قدم المرة الهجرة لأن هذا فيها غير إذا كان الهجرة من ماذا من نوع الوجوب غير المستحب أما كان مستحب فلا بأس أن تقدم الحج لكن كان من نوع الوجوب فتقدمها على الحج عرفت يا بلال
Donc le cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il explique que le hajj, c'est bien connu que c'est un pilier parmi les piliers de l'islam, mais il a des conditions, c'est-à-dire que parmi les conditions qui rendent le hajj obligatoire à la personne, c'est qu'il soit dans la capacité de le faire, il y a une capacité physique et financière. Il dit par contre, l'hijra, elle a un autre statut, ça constitue un péché azim de le fait de ne pas l'accomplir, c'est une obligation, c'est catégorique, et donc elle n'est pas conditionnée de la même manière qu'est conditionné le hajj par rapport à son statut d'obligation. De plus, il explique que si jamais tu es capable de faire les deux, alors dans ce cas-là, c'est une autre situation. Mais si tu n'es capable de faire qu'un des deux, dans ce cas-là, tu fais privilégier la hijra d'abord.
نضيف مسألة. نضيف مسألة سؤال بلال. أن الإنسان الآن إذا كان نوى الحج وعنده مال ثم قال بعد سنتين ثلاث أربع خمس سنوات ثم حج بعد خمس سنوات ما يأثم هذا؟ أنا سأدى الحج اللي عليه مع أنه قادر قبل كم؟ قبل خمس سنوات لكن لو مات في الخمس سنوات هذه يأثم ما مع القدرة لأنه كان قادر ولم يحج قصر يأثم. أما إذا أخرها ويعفي عنها بعد خمس سنوات ما يأثم، لكن الهجرة يأثم. لو تركها اليوم وهو قادر ومات عليه يأثم، يكون على الحساب الذي قلنا اللي هجرة الواجب. ترجم
عود المسألة ما فهمت.
يعني الآن واحد عنده مال قادر يحج، يعني بمعنى من استطاع الحج الآن مستطيع، هذا صار واجب عليه أن يحج. متى الآن واجب عليه؟ لكن أخرها سنتين ثلاث سنة ثم حج بعد سنتين
بدون عذر.
ها؟
بدون عذر.
أخرها بدون عذر أيوة.
إيه نعم.
ثم حج بعد سنتين ثلاث سنة. حج مقبول ولا لا؟
مقبول إن شاء الله.
هل على إثم تأخير؟ هل على إثم؟ ليس عليه تأخير. لكن لو مات في المدة هذه هنا على إثم لأنه سوف فمات، عرفت؟ لكن الهجرة الآن عليه هجرة وجوبا أن يخرج وهو قادر، ها؟ فأخرها هذا إثم عظيم مثل ما ذكرنا، فيقدمها على الحج.
حسنا الله عليكم هذا توضيح. يعني الشيخ حفظه الله il mentionne donc il baigne un peu plus dans la masala, il mentionne un sujet. Il dit par exemple le hajj, la différence entre le hajj et la hijra, pour prouver qu'en fait c'est justement il faut faire devancer la hijra sur le hajj en matière de précédence et de priorité. Le fait que le hajj, si la personne a la capacité de faire le hajj, c'est-à-dire qu'elle est capable physiquement et financièrement de faire le hajj, et le hajj lui devient obligatoire, et qu'il le retarde, c'est-à-dire qu'il est capable de faire le hajj, mais il ne le fait pas volontairement, il n'a pas d'excuse. Il la retarde un an, deux ans, puis il l'accomplit. Est-ce que son hajj est accepté? Oui. Si il venait, est-ce qu'il a un péché pour avoir retardé? Le cheikh dit non. Mais il dit, par contre, si jamais, pendant ces deux ans qu'il a retardé, il vient à décéder, dans ce cas-là, il est pécheur. Ça, c'est pour le hajj. Maintenant, pour la hijra, s'il a la capacité de la faire et qu'il la retarde, il est pécheur par le fait de la retarder. Donc, c'est plus grave que de retarder le hajj. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est mutaqaddim, c'est-à-dire c'est prioritaire de faire passer la hijra avant le hajj.
Yani, si par exemple, yani là, j'ai plus la capacité de faire le hajj que la hijra dans l'immédiat, ça veut dire que je repousse le hajj et je fais tout mon possible pour faire la... Yani, j'œuvre pour la hijra avant de pouvoir faire le hajj.
Si j'ai moins de hajj, du coup, je garde cet argent pour faire pour la hijra.
C'était la question initiale, c'est pour ça que j'ai pas compris en fait toute la différence avec la première question.
Non,
بس
c'est
une affaire.
Le
cheikh,
il a été wadih dans la première réponse.
لا خلي
يسأل. لا،
سأل
نفس السؤال.
لا، معلش، في شيء انت متكه ما عرفته يمكن. خلي جماعة يتكلموا معك. خلي يوضح لك هو.
يعني je veux dire si par exemple là يعني je peux faire le hajj cette année.
Non.
Ça veut dire que ça m'est préférable de pas le faire et yani de garder par exemple cet argent là pour yani faire ma hijra le plus rapidement possible.
يقول إذا أملك ما يكفيني للحج هذه السنة وأستطيع أن أحج بهذا المال، هل متقدم لي أن أهاجر وأتأخر يعني فيما يتعلق بالحج؟
يعني أخر الحج قدم هذه.
نعم،
وجوبا عليه أن يهاجر بالمال هذه، طالما أنها هجرة واجبة ما يؤخرها مشان الحج. ما يؤخر الحج الآن ينساه ما دام عليه هجرة واجبة.
نعم.
يقدم الهجرة الواجبة. نعم.
juste pour que j'ai bien compris. Tu as l'argent dans ta question.
Non. L'argent,
il n'y a pas l'argent suffisant pour faire la
hijra. C'est ça que tu as précisé
dans ta question ?
Ouais, c'est ça, non. Ah, tu as l'argent pour faire le hajj, mais j'ai pas l'argent pour faire la hijra.
تمام.
j'aimerais faire le hajj par exemple cette année là.
كما ذكرتم ما فهمت الدقة سبحان
الله. عرفت الآن؟
الآن فهمت. يقول عندي من المال ما يكفيني للحج ولكن ما يكفيني للهجرة.
اي ما يكفيني الهجرة.
نعم.
ما يكفي الحج. خلي المال هذا وزد عليه وقم هاجر.
garde cet argent que tu avais pour le hajj, tu le gardes, tu accumules en plus jusqu'à ce que tu atteignes en jouant cet argent et cette ziyada jusqu'à ce que tu aies assez pour faire le hajj et tu émigres.
بس سؤال انا بلال كم قيمه الهجره اقول له كم قيمتها
كم سي كوا لا كيف كم انت داك
تقدير انت
كم انت داك
رفلي كذا كم تقدير
يجي
لا اسمع تقدير يعني اي ريال 10 ريال 100 ريال كم عندك
جي
با يعني جي
با انا بقدرها لك ما انا بقدرها لك ممكن ما تزيد على 1000 يورو اسمعوا يا شباب كويس أنا أقول إنها ما تزيد على 1000 يورو، إيش رأيك؟ كله 1000 يورو بس
بتاعي. يجي مو جو بونس كو سا ديباس باسكو تا بزون بو ايميغري سا ديباس با 1000 يورو. يجي كيس كان بونس؟
عندك 1000 يورو؟
اللي تا 1000 يورو؟
ها؟ اه نعم. عندك؟ يوم الاثنين انا وياك نسافر مع بعض. في الطائرة التركية وكم يا محمد؟ 300 يورو. طائرة تركية 300 يورو. وشيل ثوبك بس هذه. وانا اضمن لك شهر كامل توكل تشرب وبعدين اشتغل. ما في عذر. بعض الناس يقول انا هجرتي 100000 يورو، متى بيهاجر؟ 100000 متى يجري؟ واذا صار قال لا يبغى لي 150، قلت ما يهاجر عمره. ترجم لهم.
Donc le chien, il a demandé, donc il dit moi je pense que ça fait c'est 1000 euros. Il dit est-ce que tu les as? Il a dit oui. Il a dit t'as pas d'excuses. Il dit mardi, lundi tu voyages avec moi, tu rentres. Il dit tu pars, tu prends la Turkish Airways. Tu pars là-bas, tu es tranquille, tu vois. Il y a pas d'excuses. Celui qui a ce genre de quantité d'argent, il a pas d'excuses.
Ou bien le car de Marseille, il a rien. Non. Il me fait 1000 euros.
Depuis Marseille, c'est peut-être même 100. Et le cher, il avait par la mer, il dit c'est peut-être même 100 euros depuis Marseille. Et le cher, il avait expliqué, il y a des gens, des fois, ils se fixent une somme, c'est inimaginable. Il dit, j'ai mis pas jusqu'à 100 000 euros. Après, il dit, quand il a 100 000 euros, il dit, bah, 150 000. Il augmente.
Ou Ekhwana, quand il m'a dit, il y a le monde, il y a un ferret, 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 il y a un ferret. مثل ما كان الأنصار قبل المهاجرين إيش عملوا لهم اللي معه زوجتين طلقة قال خود يا بلال يلا زوج كيف لا إنه هذا هاجر في الله مثل هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة إيش وجدوا الأنصار فتحوا صدور منهم لما يعلمون هؤلاء هاجر لدينهم والله بيوقفون معه إذا ما في مفك من الهجرة إذا كانت هجرة بمعنى إيش واجب أي
Le cheikh Hafidahullah Ta'ala nous donne une belle leçon dans le fait qu'il y en a beaucoup de frères qui disent je veux avoir telle somme. Il dit les Sahaba qui ont quitté la Mecque, qu'est-ce qu'ils avaient avec eux quand ils ont quitté la Mecque pour Médine?
Non, le Sahaba, ils ont quitté la Mecque pour Médine. 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 أنت لك قبيلة شوف كيف لا ولك بلد وأهل البلاد هذه ما يتركوك والله إذا قال والله فلان ما هاجر ما عنده شيء قوم معك ويمدونك وهذا ويسووا لك بيت ويسووا لك يمكن تقول والله الحمد لله وكان من زمان هاجر كان أفضل لي لا هذه طبعا يعني مستحيل اليوم يصير لكن أنا أضرب لك مثال أنه ممكن هذا نوع منه سهل يعني من تسهيل يعني أنا أريد أن أقفل الأبواب كلها ما في إلا باب واحد بس حتى تجي البحر برسيلة وتسبح يلا الآن وقت انتهى استودعكم الله اليوم وغدا إن شاء الله يكون معنا الدرس من بعد صلاة العصر بارك الله فيكم جميعا سامحونا إذا أطلنا عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Juste je complète ce que le cheikh a mentionné parce que c'est une belle faïda que le frère a intervenu avant que j'ai fini de trancher ce que le cheikh avait expliqué. Il avait donné l'exemple que par rapport à ceux qui fixent des grandes sommes pour faire la hijra. Il avait mentionné que les muhajirun, radiallahu anhum ajma'in, quand ils ont quitté la Mecque, ils n'avaient rien.